RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec Boule et Fichou.
Marine Le Pen et François-Xavier Bellamy en Nouvelle-Calédonie. Ils arrivent ce soir par le même vol, mais auront bien sûr des emplois de temps séparés. Une cérémonie ce matin à Nouméa pour rendre hommage aux héros du passé. Un dépôt de gerbes a eu lieu à la Croix de Lorraine en présence des autorités civiles et militaires. Une première pour la Société calédonienne d'ornithologie, un puffin de Buller s'est échoué à Nouméa et a été secouru par des bénévoles. Une première depuis 2009. Dans la région en Polynésie française, 4 bungalows d'un hôtel de Bora Bora ont été détruits par les flammes. Il s'agit d'un incendie d'origine électrique. Et puis du sport avec du tennis, des Calédoniens sélectionnés avec les équipes d'Océanie Pacifique pour la Coupe Davis chez les hommes et pour la Billie Jean King chez les dames. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Marine Le Pen et François-Xavier Bellamy arriveront donc ce soir en Nouvelle-Calédonie. La chef de file des députés Rassemblement National et le député européen vice-président DLR arrivent par le même vol et ils seront donc en même temps sur le territoire du 27 au 31 mai. Ils auront bien sûr des emplois du temps séparés, Elisabeth Noir.
Marine Le Pen revient en Nouvelle-Calédonie pour la première fois depuis 2013. Elle sera accompagnée cette fois-ci de Louis Alliot, le maire de Perpignan et premier vice-président du Rassemblement National, qui est souvent venu en Nouvelle-Calédonie, mais aussi de 2 députés européens, André Rouget, qui connaît bien le territoire lui aussi, il est chargé de l'outre-mer au Rassemblement National, et de Christophe Bay, qui a été en 1994 directeur de cabinet du haut-commissaire Dominique Bure. Dès demain matin, Marine Le Pen et sa délégation s'entretiendront avec le haut-commissaire Jacques Billon avant de déposer une gerbe à la Croix de Lorraine et de s'arrêter au monument de la poignée de main, place des Cocotiers. Ils rencontreront ensuite les différents responsables politiques et institutionnels, la présidente de la province sud, Sonia Baques, la vice-présidente du congrès, Virginie Rufnak, la présidente du congrès, Velma Falayo, Mila Kolotoukoumouli pour le groupe Éveil Océanien, Sonia Lagarde à la mairie de Nouméa, et enfin Jean-Pierre Diaoué, le chef du groupe uni du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Jeudi matin, Marine Le Pen sera notre invitée du matin à 7h30 sur RRB. Avec sa délégation, elle se rendra ensuite à la SLN avant de rencontrer le président du gouvernement, Alcide Ponga, puis de se rendre au Sénat coutumier. La délégation du Rassemblement National qui se déplacera ensuite à Ducos pour constater les dégâts causés par les violences insurrectionnelles. Et elle s'entretiendra avec David Guyenne avant un rendez-vous avec le bureau politique du FLNKS. Jeudi soir, elle aura une réunion avec des chefs d'entreprise. Vendredi, enfin, Marine Le Pen se rendra au Mont-d'Or en navette maritime avant d'avoir d'autres entretiens politiques. Et elle clôturera son séjour par une réunion publique. C'est vendredi à 18h au Château Royal.
Et le député européen François-Xavier Bellamy arrive donc lui aussi ce soir et à son programme également des rencontres avec les responsables politiques et institutionnels, mais aussi des déplacements sur le terrain.
François-Xavier Bellamy, député européen qui a été nommé vice-président des LR par Bruno Retailleau, aura lui aussi des entretiens avec la plupart des responsables politiques et institutionnels et il se rendra lui aussi sur le terrain pour constater le bilan des émeutes et pour rencontrer les chefs d'entreprise. Ainsi, demain matin, il ira à la rencontre des chefs d'entreprise touchés par les exactions à Ducos puis à Magenta où il rencontrera les dirigeants du groupe Jondeau avant de déjeuner avec des chefs d'entreprise. C'est demain soir, mercredi à 18h que François-Xavier Bellamy tiendra une réunion publique à l'hippodrome de Nouméa, une séquence organisée conjointement par le Rassemblement et les loyalistes. Au cours de cette réunion publique, il doit notamment parler des ingérences étrangères en Nouvelle-Calédonie et de l'avenir institutionnel du territoire. Le programme précis de François-Xavier Bellamy ne nous a pas encore été communiqué. Sachez qu'il est déjà venu sur le territoire en mai 2023 et qu'il sera notre invité dans le magazine Transparence vendredi à midi.
Merci beaucoup Elisabeth Noir.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec la réponse à notre question d'hier. 76% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il est utile que des personnalités comme François-Xavier Bellamy ou Marine Le Pen effectuent une visite en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 24% à être d'un avis contraire. Notre question du jour maintenant, la reprise de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie est-elle, selon vous, un bon signe dans le climat morose que connaît le territoire. Si vous trouvez que c'est un bon signe, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. C'est ainsi que peut se résumer le devoir de mémoire. En ce 27 mai, nous célébrons en effet la Journée nationale de la résistance. Un dépôt de gerbes a eu lieu à cette occasion à la Croix de Lorraine ce matin, Jean-François Bodin.
Cette année 2025 marque les 80 ans de la libération et de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie. Et plus que jamais, le devoir de mémoire doit perdurer. Les autorités civiles et militaires étaient réunies comme chaque année pour une cérémonie d'hommage, au cours de laquelle le haut-commissaire Jacques Billan a procédé à la lecture du message de Patricia Mirales. C'est la ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Lecture du message de Madame Patricia Mirales, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Quand le pays semblait s'être effondré sous le pas de l'ennemi, quand l'espérance paraissait se taire jusque dans les pierres les plus anciennes, il y eut des âmes debout. Il y eut des femmes, des hommes, des jeunes parfois à peine sortis de l'enfance qui ne voulurent pas croire que la France pouvait mourir sans avoir lutté jusqu'au bout.
C'est la première fois que le haut-commissaire dépose une gerbe pour cette journée nationale de la résistance en Nouvelle-Calédonie. Et il estime que ce devoir de mémoire doit être perpétué pour et par la jeunesse.
C'est une journée importante que nous allons commémorer dans la France tout entière. Et particulièrement ici en Nouvelle-Calédonie, à l'occasion de cette cérémonie, on sait que la résistance continue de nourrir non seulement la mémoire, je le disais, mais aussi l'engagement des plus jeunes dans le cadre des cours qui leur sont dispensés, mais aussi en les incitant à s'engager dans le concours national de la résistance pour réfléchir à notre histoire et pour qu'ils puissent composer, je dirais, eux-mêmes et préparer notre avenir commun.
Il y a celles et ceux que l'histoire a retenus, il y a aussi les milliers de visages anonymes. Leur demeure est fidèle, c'est aujourd'hui encore cultiver leur héritage, pouvait-on également entendre dans le message de la ministre Patricia Mirales. Pour Isabelle Chamorro, membre du gouvernement, cette idée de résistance traverse le temps et fait écho encore aujourd'hui à la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie.
C'est des notions déjà de mémoire, donc il est important à chaque cérémonie de pouvoir rendre hommage de cette façon. Et puis il y a une idée aussi importante dans la résistance qui traverse le temps, c'est-à-dire celle de la résilience. On l'a entendu dans un très beau discours. D'ailleurs, c'est un discours qui était, je trouve, assez unique pour cette année. Donc, la résilience, l'attachement aux valeurs, le fait qu'on puisse croire aussi à un avenir plus prospère quand les choses ne vont pas. Donc, au-delà du niveau national, nous, ici en Nouvelle-Calédonie, pour les responsables politiques, évidemment que ça résonne pour nous dans une période où la Nouvelle-Calédonie, même si c'est sans comparaison, fait face à de grandes difficultés et où nous avons la force avec les Calédoniens de relever la Nouvelle-Calédonie.
Ce matin, Michel Gargon, fils et petit-fils de résistants, était présent à cette cérémonie, une manière d'honorer ce que sa famille a traversé.
La résistance est une valeur forte dans la mesure où mon grand-père paternel était aussi impliqué. Tous ces gens-là ont plus ou moins pris le maquis. Mon père faisait partie d'un réseau lourd qui s'appelait le réseau Combat. Il était chargé de transmettre entre autres des messages du général de Gaulle à tout le maillage des réseaux. Il s'est fait arrêter, il s'est fait dénoncer. Donc il a été arrêté à Nîmes, et là de Nîmes il est parti dans la Villa des Rosiers à Montpellier où il est passé à la question par la Gestapo, et ensuite il est rentré, il est monté sur Compiègne, et Compiègne après donc il a été déporté dans le camp de Buchenwald et de Dora. Donc il en est sorti et il est revenu en Nouvelle-Calédonie en fin 48 début 49. Et c'est là qu'il a commencé à exercer son métier de magistrat. Il était magistrat en Nouvelle-Calédonie. Il a continué donc toute sa carrière. Voilà.
Deux Calédoniens résistants bien connus sur le territoire ont été déportés dans les camps de concentration. Il s'agit de Jacques Barrault et de Sylvain Gargon, qui est donc le père de Michel Gargon, que l'on vient d'entendre.
RNB 17h54.
L'UGPE et la province sud devant le tribunal administratif. Aujourd'hui, l'Union des groupements de parents d'élèves souhaite faire annuler la délibération de la collectivité qui concerne l'attribution des bourses scolaires. Elle a demandé un référé de suspension en attendant le jugement, Jean-François.
Adoptée en juillet 2024, cette délibération de la province sud fixe à 10 ans le nombre d'années de résidence nécessaires pour obtenir des bourses de premier et second degré et de l'enseignement supérieur. Le recours étudié aujourd'hui vise à suspendre cette délibération de la province dans l'attente du jugement sur le fond concernant son abrogation. L'UGPE a justifié l'urgence de la situation par l'atteinte à l'instruction que provoque, selon elle, cette décision de la province et qui concernerait des milliers d'élèves. Le nombre de boursiers de la province a en effet baissé d'environ 3 000 cette année par rapport à 2024. Jean-France Toutiquian, secrétaire de l'UGPE, a pu s'exprimer à ce sujet devant le juge.
Pour nous, il y a urgence parce qu'en fait, depuis la rentrée 2025, ça n'arrête pas de défiler au local de l'UGPE. Et sur la page Facebook également, on a des tas de parents qui sont embêtés. On voit bien ces dizaines de familles qui mangent sur les pelouses des écoles avec leurs enfants parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer la cantine et ils n'ont plus de bourse.
Le Province Sud, de son côté, avance que cette décision a été prise dans un contexte d'urgence, avec une baisse de 10% du budget 2025 par rapport à 2024, qui se répercute donc sur tous les secteurs. Elle répond à l'UGPE que si le nombre de boursiers a diminué, c'est aussi et surtout car le nombre de demandes de bourse a baissé. Environ 16 600 demandes en 2024 contre 13 600 cette année, et donc 3 000 demandes en moins. Le juge a toutefois soulevé qu'il n'y avait pas eu de projection budgétaire pour justifier ces économies. La décision concernant le référé de suspension sera rendue vendredi ou au plus tard en début de semaine prochaine.
Du côté de Bouraille, maintenant, l'association Cris et Pleurs de Femmes a organisé ce lundi une opération de sensibilisation dans la tribu de Poté, soutenue par les coutumiers et la mairie. La journée a abordé le thème des violences physiques, psychologiques, verbales et sexuelles. Les coordinatrices du dispositif d'accueil des victimes du Médipôle ont animé une séance collective le matin avant un échange libre cet après-midi. La prochaine étape pour l'association, ce sera du côté de Ponérioin au mois de juin prochain. Notez à présent ces rendez-vous d'antenne. Demain, notre invité du matin sera Emmanuel Rivet, psychologue et responsable du programme prévention des addictologies à la SSNC. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, ce samedi 31 mai, l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie a déployé une campagne de sensibilisation à destination des adultes de 18 à 45 ans. Son nom, votre porte-monnaie mérite de respirer. Une opération qui invite les fumeurs à prendre conscience des économies significatives qu'ils peuvent réaliser en arrêtant de fumer. Nous en parlerons donc demain matin à 7h30 avec Emmanuel Rivet, psychologue et responsable du programme prévention des addictologies à l'SSNC. Et puis, autre rendez-vous sur Radio Rythme Bleu. Demain midi, dans l'édition de la mi-journée, nous recevrons Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa. Nous l'interrogerons sur la situation politique actuelle, l'échec des discussions sur l'avenir institutionnel, mais aussi la proposition de Manuel Valls et les différentes réactions que cela suscite. Une interview d'Harold Martin à suivre demain dans notre édition de la mi-journée. À 17h57, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Léo Fichou.
Ce midi, le magazine Citoyen s'est intéressé à la question du bien-être animal, l'occasion d'évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain en raison notamment de la forte augmentation d'animaux errants dans le pays. C'est une situation qui inquiète de plus en plus. Trop d'animaux sont laissés à l'abandon dans les rues et toutes les communes sont touchées par ce phénomène. Chiens comme chats, leur nombre ne cesse de croître faute de campagnes de stérilisation suffisantes. Une solution pourtant jugée primordiale pour combattre ce problème. Thibaut Raffard, chargé de mission bien-être animal au gouvernement, revient sur les limites des actions actuelles.
Depuis un an, on constate à nouveau dans les quartiers des meutes de chiens errants, parfois, souvent d'ailleurs avec des colliers. Il y a quand même eu plus de 8000 animaux qui ont été stérilisés depuis la mise en place de ces campagnes. Mais bon, ça date de 2014, ça a commencé en 2014. Je souhaite appeler la vigilance des auditeurs sur une stérilisation, par exemple, pour une chatte. Au bout de 4 ans, on peut estimer que c'est plus de 20 000 naissances qui sont évitées. Et malheureusement, avec les problèmes qu'on a eu au niveau du budget de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de nouveaux crédits qui sont inscrits cette année pour l'instant. Mais il y a des reliquats de crédits sur des campagnes précédentes. Mais on incite évidemment même les gens qui sont dans ce dispositif à participer à minima aux frais vétérinaires.
Et si le problème est global, c'est bien la présence des chats qui est la plus préoccupante. Leur nombre explose et les associations alertent sur cette reproduction incontrôlable. Virginie Salah, la présidente d'Animal Action NC, et Michel Gauthier, président de la SPANC, font part de leur expertise.
Thibault, j'insisterai beaucoup sur le problème qu'on rencontre des chats. C'est une catastrophe. Quand on fait du terrain, on voit qu'il y a des chats de partout. Je pense que dans 4 ans, éventuellement, on va nous annoncer des battues pour réguler les chats, alors que nous, on appelle de nos voeux des méthodes un peu moins barbares et prises en amont. Parce qu'on a vraiment un gros, gros, gros problème de chats. Toutes les associations débordent de chats et de chatons. Depuis un an, c'est sans fin, ça n'arrête pas.
On m'en parle aussi, je rencontre certains Mélanésiens dans les loyautés. Ces animaux vont perturber l'écosystème et risquent de mettre en péril des oiseaux rares, endémiques à la Calédonie. Donc il y a un gros problème écologique et il faudrait que les élus puissent réagir à ça.
Au-delà de la stérilisation, la question de la responsabilité des propriétaires est capitale. En Nouvelle-Calédonie, les adoptions sont nombreuses, parfois motivées par un achat coup de cœur ou pour monter la garde ou encore pour la reproduction. Mais sans réelle anticipation, cela conduit à une augmentation d'abandon et de maltraitance. Il faut enfin savoir qu'abandonner ou maltraiter un animal est un délit inscrit dans le code pénal. Une première pour la Société calédonienne d'ornithologie. Ces derniers jours, un puffin de Buller s'est échoué à Nouméa et a été secouru par des bénévoles dans le cadre du programme SOS Pétrel. Charlotte Coulson.
C'est un oiseau extrêmement rare en Nouvelle-Calédonie. Il n'avait plus été observé sur le territoire depuis 2009. Habituellement, en cette période, le puffin de Buller migre depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'aux côtes américaines du Pacifique Nord. Et c'est donc une belle surprise de le voir à Nouméa. David Ugolini est le président de la SCO, Société Calédonienne d'Ornithologie.
Actuellement, on est en pleine période d'émergence des jeunes puffins du Pacifique. C'est habituel au mois de mai. Les jeunes qui sont nés sur les îlots quittent actuellement leur colonie d'origine. Et à cette occasion-là, comme ce sont des oiseaux qui naviguent de nuit, ils viennent s'échouer sous les lumières. Donc on nous a signalé un oiseau marin échoué au centre-ville, que nos bénévoles se sont déplacés sur place pour le récupérer. Et là, les gens leur ont remis donc un carton avec un oiseau, mais qui n'est pas un habituel puffin du Pacifique comme on peut en voir, ou un de nos pétrels calédoniens bien connus, pétrel de Tahiti ou pétrel de Gould. Et donc il s'agissait d'un oiseau vraiment, vraiment atypique, donc des photos ont été prises pour permettre une identification précise de l'espèce, et il s'avère donc que c'est un puffin de Buller, donc une espèce qui niche sur quelques îles néo-zélandaises et qui, après nidification, migre au large des côtes américaines du Pacifique Nord.
Et David Ugolini explique que ce puffin de Buller a dû s'égarer de sa route migratoire. Il a pu être porté par les vents forts de ces dernières semaines jusqu'à Nouméa. Après une courte observation, l'oiseau, qui était en pleine forme, a été relâché. Il a donc pu reprendre sa route en toute sécurité. Mais alors, que faire si vous trouvez un oiseau échoué en ville ? Les conseils de David Ugolini.
Le problème, quand ces oiseaux s'échouent, ils sont incapables la plupart du temps de repartir tout seuls. Ce sont surtout des oiseaux qui sont de grands planeurs. Généralement, ils finissent mal, parce que quand ils s'échouent sur une route, ils finissent sous une roue, ou alors entre les crocs d'un chien ou d'un chat. Quand ils sont échoués, ça se termine par une mort quasi certaine. Il faut ramasser l'oiseau, le placer dans un carton troué, fermer le carton. Il ne faut pas manipuler l'oiseau, il faut éviter de le toucher, de le caresser. Il n'apprécie pas ça. Vous le mettez au calme dans un carton troué, ça va le déstresser. Et puis il faut nous contacter au 83 89 40 et on vous donnera toutes les instructions et les bonnes pratiques pour permettre que cet oiseau retrouve la liberté normalement et sans problème.
Et je vous rappelle le contact de la Société calédonienne d'ornithologie, c'est le 83 89 40, le 83 89 40.
Les jeunes catholiques calédoniens se préparent au JMJ 2027, les Journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront en 2027 donc à Séoul, en Corée du Sud. Hier, en compagnie du Père Ngo, le comité JMJ Nouvelle-Calédonie 2027 rencontrait le nouvel archevêque de Nouméa, Mgr Sione Poé, pour lui présenter ses projets et ses objectifs. Le nouvel archevêque les a bien sûr encouragés.
C'est un groupe qui est très motivé et je le félicite. Je les encourage à continuer dans l'esprit de conviction afin de bien préparer les jeunes qui vont représenter notre diocèse. C'est un rassemblement de tous les jeunes chrétiens qui viennent, qui prient et qui partagent tous ensemble, qui sont sous le même drapeau, guidés par le même esprit, le nom de Christ, mais qui partagent avec le reste du monde leur foi, leur culture, leur conviction.
La rencontre a permis de faire un point sur la nouvelle équipe, mais aussi sur le projet JMJ Séoul 2027, comme le souligne Georges Tarayou, le président du comité JMJ NC 2027.
L'objectif, bien sûr, c'était de présenter déjà le comité JMJ 2027, qui accompagne les JMJistes durant toute la préparation jusqu'à leur départ et leur retour. Sur l'ordre du jour annoncé aujourd'hui, il était question de trois parties. La première partie, c'est bien sûr toute la partie spirituelle, qui est très importante, qui a été préparé par Père Jacques Souta. Ensuite, une petite nouveauté cette année avec le nouveau site GMJ du diocèse. Tous les jeunes de chaque paroisse pourront et auront l'occasion de s'inscrire sur ce site avec plein d'informations. Et bien sûr, toute la partie opérationnelle, organisationnelle que nous avons mis en place pour les GMJ à Séoul 2027.
Le premier rassemblement de préparation de ces JMJ 2027 se tiendra du 22 juillet au 2 août au foyer Saint-Léon à Païta. Il est ouvert à tous et si vous souhaitez participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Séoul, notez que la clôture des inscriptions a été fixée au 31 août prochain. Notre jeu SMS fait encore des heureux. Elvina de Nouméa a envoyé RRB au 40-20 ce matin, juste au bon moment. C'est en effet elle qui remporte 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où elle veut et quand elle veut. Bravo à elle donc. Les compteurs sont remis à zéro et vous serez peut-être le prochain gagnant. Il vous suffit d'envoyer RRB par SMS au 40-20. Si vous êtes le 1500e, c'est vous qui remportez 100 000 francs en bons d'achat donc. Et dans tous les cas, votre SMS gagnant ou non sera remis en jeu pour le prochain tirage du million qui aura lieu le vendredi 4 juillet à 14h. Alors n'attendez plus, envoyez RRB au 40-20. 18h, passé de 6 minutes, seconde pause dans ce journal. On ira ensuite faire un tour à Bora Bora avant de parler sport.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal avec vous, Léo Fichou.
Oui, dans la région maintenant, on part en Polynésie française. Quatre bungalows d'un hôtel de Bora Bora ont été détruits par un incendie d'origine électrique. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Deux bungalows sur pilotis et deux autres côté jardin ont pris feu la nuit dernière à l'hôtel intercontinental Le Moana de Bora Bora. Selon les pompiers locaux rapidement accourus sur place, le système électrique d'un climatiseur serait à l'origine du sinistre. Le vent violent qui soufflait sur l'île aurait permis aux flammes d'embraser trois bungalows qui ont été complètement détruits, tandis qu'un quatrième a été gravement endommagé. Deux personnes légèrement blessées ont reçu des soins sur place. La direction de l'hôtel a toutefois précisé que le Moana reste ouvert à la clientèle. Une enquête a été ouverte pour établir les causes exactes du sinistre. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et puis on termine ce journal avec du sport, du tennis. On connaît les sélections d'Océanie Pacifique pour la Coupe Davis chez les hommes et pour la Billie Jean King chez les dames. Parmi les sélectionnés, on retrouve deux Calédoniens, Nicolas Ngodrella et Caroline Delaunay. On notera aussi la présence de Gillian Osmon, le Tahitien qui était en décembre dernier invité du BNC Tennis Open de Nouméa. Les compétitions auront lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et ce sont les dames qui ouvriront le bal dès le 16 juin. Elles sont dans un groupe assez relevé, avec l'Indonésie, les Philippines et l'Ouzbékistan. Les hommes, eux, débuteront le 14 juillet, affronteront notamment le Koweït, le Qatar et le Népal. Après le sport, place à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, des averses éparses qui intéresseront l'Est et l'extrême Nord en soirée se dissiperont en général. Ailleurs, le ciel deviendra le plus souvent clair à peu nuageux avec encore des nuages plus denses sur l'extrême Sud. Le vent deviendra faible en s'orientant au secteur Nord-Est. Il sera localement accéléré sur l'extrême Nord. Les températures minimales diminueront jusqu'à 15 degrés sur l'Ouest et marées. Elles se maintiendront entre 18 et 23 degrés ailleurs. Demain matin, le temps sera ensoleillé et sec dans l'ensemble. Toutefois, quelques gouttes circuleront sur le Nord-Est, voire au Loyauté. Le vent effectuera une rotation de secteur nord au secteur ouest en cours de la journée. Le plus souvent faible, il s'établira autour de 10 nœuds sur la pointe sud en toute fin de matinée, Léo.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est la fin de ce journal.